9h23 minutes. Hier, on a appris officiellement que Marois Risky devenait candidate pour le Parti libéral du Québec dans la circonscription de Saint-Laurent, qui était occupée jusqu'à maintenant par Jean-Marc Fournier, qui lui a annoncé donc qu'il quittait. Elle est avec nous ce matin, Mme Risky. Bonjour.
Bonjour.
On a eu souvent l'occasion d'échanger ensemble sur des questions de paradis fiscaux, entre autres, et des politiques fiscales canadiennes. Vous faites le saut en politique au Québec. Vous aviez tenté une première fois au fédéral avec Justin Trudeau et tenté aussi d'aller chercher l'investiture dans le comté de Saint-Laurent au fédéral. Donc, deux tentatives. C'est, on peut dire, votre troisième incursion.
On peut dire jamais 203.
OK. Pourquoi le Parti libéral? Qu'est-ce qui vous a amené vers eux?
Bien, le Parti libéral du Québec, c'est aussi un parti que j'étais c'est dans ma famille politique depuis de nombreuses années. Et c'est quand même ma couleur politique affichée. Mais aussi, cette campagne électorale, elle est décisive parce que c'est sûr qu'on va parler d'un enjeu qui me touche personnellement. On va parler aussi d'immigration. Le ton a déjà été lancé par la CAQ et moi, c'est sûr, je resterai pas à la maison les bras croisés à écouter M. Legault qui va parler d'un test qu'il n'a toujours pas affiché.
C'est donc quoi, la question identitaire là, qui vous a...
Ravivé la flamme, oui, mais pas juste ça. Vous savez, le combat de l'équité fiscale, la justice fiscale pour avoir plus de justice sociale et économique, ça fait quand même plusieurs années que j'en parle. Et là, maintenant, je sens que je vais avoir les coups des franges pour mener à terme ce combat-là.
Je me souviens, pour avoir donc fait des entrevues avec vous, vous étiez très sévère à l'endroit du gouvernement canadien en disant qu'il ne prenait pas les moyens sérieux pour combattre l'évasion fiscale. On comprend aussi que les pouvoirs d'une province sont quand même limités, là, un peu.
Non, là-dessus...
Non, ils n'ont quand même pas les mêmes ressources qu'un gouvernement fédéral.
Ben écoutez, la principale ressource, ça s'appelle la volonté politique.
Oui.
Ça coûte pas trop cher. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, moi, je parle non seulement d'évasion fiscale, mais je parle aussi d'évitement fiscal, parce que ça aussi, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, les Google et Facebook de ce monde font des affaires au pays, mais ne payent pas d'impôts. Nous, au Québec, la beauté de la chose, c'est que nous avons une pleine autonomie fiscale. Nous avons notre propre loi d'impôts et aussi notre propre taxe de vente sur la TVQ. Et par exemple, dans le dossier Netflix, alors que Ottawa a donné une fin de non-recevoir au Québec, M. Letao a décidé de lui d'agir, de ne pas attendre après Ottawa dans ce dossier.
Je comprends, mais si on parle de paradis fiscaux, je comprends que l'outil, c'est la volonté, mais dans les faits, si tu as une province au Canada qui se lance dans cette bataille-là, c'est une chose. Mais si le gouvernement central ne suit pas, si les autres provinces ne font pas la même chose, si les autres pays ne font pas la même chose, ça demeure quand même limité.
Monsieur Arcan, vous avez raison. Mais le problème, c'est que tout le monde va se dire, mais il faut que quelqu'un d'autre commence.
Mais votre parti, le Parti libéral, n'a pas été ben agressif sur ces questions-là de paradis fiscaux?
Ben, moi, je pense qu'il a donné le ton avec, en décembre dernier, le plan économique de Monsieur Letao qui dit, nous, maintenant, on va s'en occuper. C'est aussi le rapport de Monsieur Bernier qui porte sur les paradis fiscaux, où est-ce qu'il y a eu l'unanimité de l'ensemble des partis qui ont donné plein de solutions, dont notamment moi aussi, j'ai participé là-dedans. Des solutions qui ont été remises aussi dans le budget de donner plus de moyens à Revenu Québec pour mieux identifier. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Absolument.
Vous me connaissez,
je suis critique, mais j'amène au parti, pas juste Marois Risky en vente fraîcheur, j'amène aussi des idées, puis on est un parti d'idées, puis on va débattre pour justement s'assurer que toutes les solutions soient respectées.
Quand vous parlez avec les gens du parti, là, parce que ça se discute, une candidature, là, est-ce que vous dites, vous demandez, je ne dis pas des engagements, mais vous voulez que le parti sur ces questions-là d'évitement fiscal ou autre, aille plus loin que ce qu'ils ont fait?
Bien, M. Couillard n'est pas venu me chercher juste parce qu'il trouvait agréable, tout simplement. Il est venu me chercher pour mon expertise et il sait très bien que cet enjeu est crucial pour moi. Et je connais sa détermination dans son dossier. Et moi, j'ai demandé d'avoir les coups des franges pour m'assurer que, dans le caucus, on est capable de débattre franchement de ce dossier-là et de le faire avancer. Or, là-dessus, je ne doute pas de la détermination de M. Couillard et de M. Letao. Et je suis convaincu que je vais être capable de rassembler l'ensemble du parti pour adopter des projets de loi.
Je vais vous donner un exemple.
Oui.
Marc Bellemare.
Oui.
Il s'est présenté parce qu'il voulait combattre le système de l'assurance automobile du Québec. Pour l'avoir interviewé aussi, elle avait obtenu des garanties que c'était pour se faire. Ça ne s'est jamais fait, puis on a vu comment ça a fini. Vous n'avez pas peur que quand on veut chercher une candidature, on laisse miroiter des choses, mais si on est élu, ça devient peut-être une stratégie différente.
Monsieur Arcan, vous avez devant vous une femme très déterminée. qu'un franc-parler qui est connu du public et qui est ainsi connu du premier ministre lui-même. Alors, mes positions, elles sont publiques et je n'ai pas peur que je sois capable d'apporter toutes mes idées et de rallier et de rassembler l'ensemble du caucus libéral dans ce dossier parce qu'au final, on veut de la justice sociale et économique pour l'ensemble des Québécois. Puis ce que je demande, en fait, là, c'est pas quelque chose de radical. Je demande de la justice fiscale pour que toutes les entreprises étrangères qui font des affaires ici soient soumises aux mêmes règles que toute entreprise québécoise. Et ça, je suis convaincue que le beau, gros bon sens va s'appliquer ici.
Comment vous trouvez votre ancien parti au fédéral face à Facebook, face à Google, face à Netflix? Vous y étiez il n'y a pas si longtemps, donc prête à aller vous battre avec eux. Puis c'est peut-être le gouvernement qui est le plus laxiste, qui subit le plus de lobbyisme de la part de ces entreprises.
Écoutez, je suis toujours libérale au fédéral.
C'est vrai.
J'ai toujours ma carte de membre. Et je suis aussi toujours en discussion. J'ai encore beaucoup d'amis au Parti libéral du Canada. Et je pense que les gens vont voir probablement que M. Trudeau va regarder ce qui se passe au Québec. Et je ne serais pas étonné que plus tard, il annonce de son côté qu'il va peut-être bouger dans le dossier Netflix.
OK. Je reviens à d'autres enjeux de la prochaine élection. Vous avez parlé de la question identitaire, puis vous avez dit hier, entre autres, que vous ne voulez plus entendre parler de ça.
Je ne veux plus entendre les politiciens en parler comme ça, parce que le ton négatif doit cesser. Quand on aspire à la plus haute fonction, c'est-à-dire premier ministre, on doit être le premier ministre de tous les Québécois. On ne peut pas commencer à faire de la petite politique, populiste et alarmiste, faire comme si l'immigration était négative pour la prospérité du Québec. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, le Québec était façonné par différentes personnes qui ont contribué, dont notamment moi-même, mes parents, sont d'origine marocaines, sont arrivés ici. Oui, ils ont dû ramer, mais ils ont travaillé, mais ils l'ont fait là, avec l'aide de plein de Québécois qui les ont aidés. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90, on ne m'a jamais exclu. Et c'est ce Québec que je veux offrir à toutes les autres personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je veux m'assurer que personne ne va se sentir ostracisé.
Vous n'avez jamais connu aucune forme d'exclusion ou de racisme de votre vie?
Non. Honnêtement, là, j'ai eu un parcours là, sans aucun accroc et j'ai joué au basketball en Abitibi, à Chicoutimi.
Mais par exemple, en milieu de travail, là, moi j'ai plein de gens qui m'écrivent qui sont originaires des pays du Maghreb qui vont me dire que pour un emploi, c'est difficile quand on a CV. Puis on a fait même, nous, l'expérience en mettant un nom de souche et un nom...
Ah non, je suis très consciente de la réalité. Ça, je suis consciente. Moi, j'ai une chance extraordinaire. 80, 90, il n'y en avait pas de problème. Par la suite, il y a eu un après 2001. Après 2001, effectivement, tout à coup, là, on pointait du doigt une certaine communauté, pour la nommer la communauté arabe. J'appartiens à cette communauté aussi. Et évidemment, là, ça commençait à être plus difficile. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire. On ne m'a jamais refusé aucune entrevue. Et oui, j'ai eu les emplois que j'ai postulés, je les ai tous eus, là, ou presque. Alors oui, j'ai une chance extraordinaire, mais je souhaite cette chance extraordinaire à tout le monde. Et pour avoir cette chance extraordinaire, il faut s'assurer qu'il n'y a aucun discours qui commence à jouer sur les peurs des gens. Et ça, il faut l'arrêter,
mais est-ce qu'on peut,
discours.
Est-ce qu'on peut débattre sereinement,
oui,
des niveaux d'immigration? Est-ce qu'on on va chercher 40, 50, 60 000 immigrants par année? C'est comme si c'était un sujet tabou, que dès qu'on veut parler de ça, ça devient une polémique.
Monsieur Arcand, moi, débattre, j'adore ça. Je suis aussi avocate. J'aime ça débattre, mais basé sur des chiffres, basé sur de la recherche, pas sur des tests arbitraires. Si Monsieur Legault veut parler d'immigration, puis qu'il veut parler d'un test de valeur, ben, je l'invite, comme Monsieur Lisée l'a fait, à nous montrer son test de valeur. Parce que là, jusqu'à ce jour, personne ne sait sur quelle base qu'il va pouvoir exclure des familles québécoises.
Je vous donne raison là-dessus, là, mais sur le plan de la francisation des immigrants, pour moi qu'il dit, là, c'est la vérificatrice. C'est un échec assez retentissant. J'en ai parlé avec M. Hurtel pas plus tard que la semaine dernière. T'es obligé de faire le même constat. C'est-à-dire qu'on veut bien, pour combler les besoins en main-d'œuvre, mais comment on peut faire pour franciser davantage les gens qui arrivent? Faut qu'on les choisisse parce qu'ils parlent français d'abord? C'est ça la priorité ou c'est pas ça pour vous?
Oui. Honnêtement, ça, on est capable d'en parler sans aucune animosité.
Alors, parlons-en.
Je vais prendre un exemple que je connais bien, le cas de ma famille. Ma mère est arrivée, même si c'est d'origine marocaine, elle ne parlait pas très bien le français, elle a dû l'apprendre. Ça a pris plusieurs années. Est-ce qu'elle par la suite, elle a appris? Oui. Est-ce qu'elle contribue aujourd'hui à la société québécoise? Parfaitement. Elle paye aussi ses impôts, il n'y a pas de problème. Et moi, deuxième génération, je considère que j'ai quand même relativement bien réussi, j'ai été éduquée, puis je remercie beaucoup le système public de m'avoir accueillie. Mais là, au niveau, lorsqu'on parle aujourd'hui, en 2018, les municipalités, en région aussi à Montréal, nous disent « on a des besoins de main-d'œuvre, pouvez-vous nous aider? » Alors nous, il faut s'assurer d'arrimer nos besoins québécois en matière de main-d'œuvre avec ceux qui appliquent ici. Alors c'est bon d'avoir un projet lorsqu'une personne va immigrer au Québec et de s'assurer.
Mais juste prendre un exemple. Selon vous, est-ce que le premier critère pour choisir un immigrant devrait être sa connaissance du français. Autrement dit, est-ce qu'il devrait comprendre, connaître le français avant d'arriver ou s'il va l'apprendre
ici? Il faut le favoriser. Moi, je pense qu'on peut favoriser quelqu'un qui parle le français. J'ai aucun malaise là-dedans. D'ailleurs, on reçoit beaucoup d'Européens en provenance de France et oui, il faut les accueillir. Okay. On a besoin d'eux. On a maintenant presque 200 infirmières qu'on a identifiées qui sont françaises, qui vont venir au Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais par la suite, il ne faut pas avoir peur de dire, OK, on a un constat au niveau de la vérité générale qui nous dit, écoutez, vous avez manqué à franciser les nouveaux arrivants. Là, ce ne sera pas coup de bâton qu'on va les franciser. Il va falloir qu'on s'assure d'être en mesure d'avoir des programmes avec un suivi rigoureux pour que les gens, lorsqu'on leur dit, vous allez prendre des cours de français, il faut que ça fonctionne. Mais pas avec des coups de bâton. Ça, je ne crois pas, moi, aux politiques de menace.
Mais comment vous allez les inciter à suivre les cours?
On ne peut pas les envoyer travailler nécessairement et aller à l'école en même temps. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'on accepte que pendant un certain temps, ces personnes-là vont devoir ne pas travailler puis miser sur des cours intensifs en français et s'assurer qu'ils sont présents dans les classes. Et là, ça veut dire plus de ressources.
Ça veut dire les payer pour suivre les cours.
Mais je vous donne encore un exemple. Ma mère était payée avec Emploi Québec pour aller à l'école. Elle avait un taux horaire de 8 $ de l'heure. Puis oui, ça l'a aidé parce qu'elle avait 4 enfants, dont ma grande sœur déficiente intellectuelle, elle n'avait pas les moyens de pas travailler. Donc oui, effectivement, Emploi Québec a payé ses cours.
Parce que c'est tentant pour un immigrant qui ne parle pas français, qui ne connaît pas le français et qui arrive à trouver un emploi où il peut travailler en anglais, par exemple, de ne pas aller suivre les cours, de ne pas se rendre là. C'est assez... Quand tu es confronté à une réalité économique...
C'est
là,
ça. Ce n'est pas juste tentant. Des fois, c'est une question de nécessité. Aussi. Alors, il va falloir qu'on s'assure, nous autres, collectivement, de faire un choix. Que peut-être que pendant les 12 prochains mois, la personne ne sera pas en train de travailler, mais elle sera en train d'apprendre le français. Une fois que la personne maîtrise le français, elle peut devenir une grande entrepreneur.
Très bien. Notre invité ce matin, Marois Risky, qui est la candidate libérale pour la prochaine élection dans Saint-Laurent. Vous êtes pour la gratuité scolaire.
Oui, c'est quelque chose que j'aspire un jour qu'on va être capable de réaliser.
À 100 %?
Oui. Moi, à de la prématernelle au doctorat, c'est quelque chose que j'aimerais un jour qu'on soit capable de réaliser si on a les moyens. Évidemment, j'ai des idées pour comment chercher de l'argent, puis ce ne sera pas dans les poches des contribuables. Je pense que si les entreprises étrangères payent leurs impôts au Québec et en plus collectent les taxes de vente comme il est dû, on va être capable d'avoir une plus grande marge de manœuvre pour financer d'autres projets de société. Et j'espère que ce sera la gratuité scolaire, mais j'apporte cette idée au Parti libéral du Québec.
Qui l'a combattu farouchement dans un passé pas si lointain.
Effectivement, mais qui n'évolue pas.
Pensez que vous allez faire évoluer le Parti libéral sur cette question-là.
Ben écoutez, moi, j'ai toujours beaucoup d'ambitions puis des rêves et je compte bien les réaliser.
Je parlais avec Mario Dumont, puis qui a été chef de parti, puis Pierre Curzi, qui a été député, sur la fameuse ligne de parti. Vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui a du caractère, là, puis vous l'affichez très bien ce matin. Puis pas toujours en parfaite harmonie avec le parti, dans le sens que vous avez sur la gratuité scolaire vos idées, qui ne sont pas des idées officiellement défendues par le Parti libéral. Allez-vous être un paquet de troubles pour le chef, vous?
Non, je ne pense pas être un paquet de troubles. Je rappelle que je suis une fille d'équipe. Je joue au basketball féminin toute ma vie.
Non, mais on aime ça, avoir des députés qui sont sur la ligne et qui ne sont pas trop à côté de la coche. Là.
Oui, écoutez, il y a des partis qui cherchent peut-être des plantes vertes. M. Couillard, c'est un vrai leader qui n'a pas peur de s'entourer de femmes avec de vrais caractères. Et moi, je fais partie, oui, de gens qui s'expriment, mais je ne m'exprime pas à travers mon chapeau. J'aime quantifier mes recherches. J'aime vraiment analyser les dossiers et les maîtriser. Et quand j'ai je prends une décision, c'est ce que, au final, je considère que c'est pour le bien commun.
Mais la politique, on appelle ça l'art du compromis. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous allez accepter une décision qui est peut-être pas celle que vous auriez prise ou qui va même, dans certains cas, à l'encontre de certains principes? Mais que vous allez vous taire sur ces questions-là pour pas nuire au parti?
Ben, à moins que le Parti libéral du Québec modifie de façon importante les valeurs du parti, non. Les valeurs du parti, je les connais bien, puis là-dedans, je me sens en parfaite harmonie. Mais pour les autres dossiers, je comprends qu'à fort que j'ai réussi à rallier les gens, puis que j'aurais pas toujours le dernier mot, mais j'ai une grande capacité à convaincre. Et je pense que là-dessus, je vais être capable d'apporter une forte voix au parti.
Saint-Laurent, là, on comprend que le fait de vous choisir, c'est comme choisir la députée. Le match vient de se terminer là.
Non, je prends rien pour acquis.
Non, arrêtez-moi ça.
Monsieur Arcand, je vous rappelle.
Ça, vous commencez mal en politique.
J'ai eu deux défaites dans mon historique.
Oui, mais
alors,
dans Hochelaga.
Je ne rien prendre pour acquis.
Oui, mais dans le cas, c'était la vraie défaite, c'était pour l'investiture dans Saint-Laurent.
Oui.
Bon, effectivement. C'est, ça, c'est le vrai test. Mais là, une fois qu'on est choisi.
Mal à mon cœur, parce que moi, j'y croyais pour de vrai, sincèrement, okay. dans Saint-Laurent, puis dans Hochelaga aussi.
Mais là, dites pas que vous n'êtes pas convaincu de gagner, là. Ça, c'est de la politique classique, traditionnelle. On le sait que Saint-Laurent, là, c'est plus qu'un château fort, là.
Ben oui, on sait très bien ça. Vous avez raison de le dire. Mais la campagne ne se limite pas à Saint-Laurent. Puis présentement, vous le savez, on doit mener, nous autres, la plus belle campagne, puis avoir la plus belle campagne.
Avez-vous demandé Saint-Laurent ou on vous l'a offert?
J'ai rien demandé. La seule chose que j'ai demandé, j'ai dit la chose suivante à M. Couillard. M. Couillard, vous savez, j'ai un franc-parler. Ça peut plaire ou déplaire. Il m'a tout de suite interrompu pour dire, moi, ça me plaît. fin de la discussion. Alors ça, je suis contente.
OK, mais c'est vous qui avez... c'est eux qui vous ont proposé.
Le premier ministre, moi, je dis, vous pouvez mettre où vous pensez que je vais être la plus utile et on m'a mis où est-ce qu'on pense que je vais être la plus utile.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Marois Risky, donc candidate du Parti libéral dans Saint-Laurent. 9h38, la pause et on revient après pour la suite.
Merci.